voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de la télévision, de la télé-réalité. Des émissions comme les autres, point d'interrogation. Ces émissions, en tout cas, cartonnent depuis 10-15 ans dans le monde entier, largement adaptées de concepts anglo-saxons. Attention, rien à voir avec les feuilletons et les télé-novelas. La télé-réalité, ce sont, par exemple, ces compétitions de chant, compétitions de cuisine, de pâtisserie ou encore compétitions de survie sur plage déserte. La télé-réalité, en tout cas, cherche toujours plus de surprises et de limites. Accoucher en pleine nature, former des couples qui commencent par se découvrir entièrement nus ou encore passer 60 jours en prison quand on est innocent. Jusqu'où peut encore aller la télé-réalité ? Une télévision aussi addictive que vomitive, à en croire les enquêtes d'opinion, un Anglais sur cinq ne supporte plus ces émissions et les juge comme la pire invention de la décennie. Un rejet qui ne nuit d'ailleurs aucunement à la bonne audience de ces émissions et à la professionnalisation d'ailleurs des participants. C'est tout de même assez troublant. Alors cette télévision est-elle un défi à l'imagination ou bien un affront à l'intelligence et à la morale ? Que raconte le succès de ces émissions sur ceux qui les regardent, sur les sociétés aussi dans lesquelles vivent les téléspectateurs. Le débat, finalement, se résume-t-il à deux visions triviales de l'humanité, élever ou ne pas élever les masses populaires ? On va en discuter avec nos invités. Bonjour Michael Stora.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychanalyste spécialisé sur la télévision en général et d'ailleurs les sociétés de production d'émissions de télé-réalité vous ont déjà sollicité pour participer à ces émissions, non ?
Oui, c'est vrai. Et j'ai refusé.
Vous nous expliquerez pourquoi.
D'accord.
Nous sommes également en ligne avec Nathalie Nadeau-Albertini, sociologue des médias. Bonjour Nathalie Nadeau-Albertini.
Bonjour.
Vous travaillez au Centre d'études des mouvements sociaux de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié 12 ans de télé-réalité, au-delà des critiques morales, aux éditions de l'INA. Et puis nous serons également en ligne avec Marjolaine Boutet, spécialiste des médias anglophones à l'Université de Picardie, Jules Verne. Et en deuxième partie d'émission, Claude Issiard, le présentateur de The Voice Afrique francophone, qui est également bien sûr notre collègue voisin et ami à RFI, sera en principe dans le studio. Vous pourrez lui poser toutes vos questions sur la célèbre compétition de chansons. Je vous lis quelques messages Facebook. Paolo, par exemple, qui est à Bamako, au Mali, nous dit « Pour moi, la télé-réalité me permet de comprendre certaines choses que je ne suis pas supposée voir autrement. L'émission qui me fascine le plus, c'est Danse avec les stars sur TF1. Cette émission me plaît beaucoup. Claude, qui est à Yaoundé, au Cameroun, nous dit « La télé-réalité, c'est du grand n'importe quoi. Ces émissions font notamment le culte de l'exhibitionnisme, de l'infidélité, de l'hypocrisie. Et c'est nos jeunes enfants qui sont la cible de ces infamies. Pourtant, nous aurions besoin de programmes qui nous permettent d'être des acteurs de développement pour nos pays. » Et puis, il y a le point de vue de Ito qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. « Pour moi, il s'agit souvent de grosses machines qui emprisonnent les participants dans leur envie d'être connus, quitte à se montrer dans des moments intimes. Contre leur gré. » Voilà. En tout cas, appelez-nous si vous regardez la télévision. Dites-nous ce que vous regardez, ce que les émissions de télé-réalité qui ont votre faveur ou pas. 33 1 84 22 71 71.
The system was broken. It was out of control. I had to do something radical to make the jail better.
Зачем ты бьешь, Андрю?
Не бил, он пощечину. Не бил, он показал, что может ударить.
Какую пощечину?
Это пощечина была, все.
Он его наклонил и показал, что может ударить тебя.
Êtes-vous prêt à assister à la plus grande compétition de talent au monde?
C'est vrai que dans la maison, il y a des tableaux de mecs. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est, qui c'est.
C'est dur d'être la copine de Jazz quand même, des fois.
Pour moi, c'est l'acteur américain qu'on voit dans les films, mais je comprends pas ce qu'il a à faire un acteur américain en pleine Afrique, quoi.
Jazz, à chaque fois, je te dis, là...
Ah, c'est le même, c'est Nelson Nadal, là, je sais pas quoi. C'est que tu m'as parlé.
Tu fais exprès, pas possible.
C'est violent, c'est-à-dire que voilà, on connaît pas la personne, et c'est mariage direct.
Oui. Ces célibataires doivent nous faire entièrement confiance car ils rencontreront la personne compatible avec eux le jour de leur mariage, à la mairie, devant le maire, à l'instant où ils vont échanger leurs vœux.
Michael Stora, tout commence en 2001 en France, hein, avec la série Le Loft. Ça a commencé un peu avant dans les pays anglo-saxons. À votre avis, pourquoi le succès a été immédiat des téléréalités ?
On va dire que lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'avènement, il y a eu quand même bien avant un type d'émission qui commençait à avoir un véritable succès qu'on appellerait les psychos. Disons les choses, ça se discute. Et autres types d'émissions où, dans laquelle j'ai participé et j'ai pu voir l'effet déjà de mise en scène de la souffrance, du quotidien, avec un enjeu étonnamment existentiel chez les personnes qui parler de ces choses-là. Je dirais même que moi, en tant que psy, je n'avais pas à faire autant de confidences et autant d'exhibitionnisme
dans, votre cabinet.
Dans mon cabinet, où les gens faisaient que leur être, là il s'agissait de thématiques de souffrance, avait été véritablement mise en scène et la télévision venait comme glorifier cette dimension du réel de ce qu'ils avaient à dire. Et je crois que, pour moi, c'est une continuité. La télé-réalité est venue surfer sur cette tendance, disons les choses, totalement nauséabonde dans notre capacité de spectateur à devenir totalement voyeur, mais dans le sens de la pulsion d'emprise, hein, c'est-à-dire réduire l'autre à un cliché. Puisque, comme vous le savez, le voyeurisme est une pulsion sadique.
Mais alors, finalement, comment expliquer ce succès-là ? C'est la transgression, c'est le fait qu'à chaque fois, il y a un nouveau concept qui repousse, qui aille toujours plus loin, qui cherche les limites ?
Alors, c'est vrai qu'entre Le Loft et ce qu'on voit maintenant, et même à travers la planète, où on voit des choses complètement délirantes entre les Japonais et les Anglo-Saxons, qui parfois vont excessivement loin dans l'humiliation. Je crois que c'est compliqué à analyser, peut-être que les autres collègues vont pouvoir le dire, mais l'évolution est en lien, d'après moi aussi, avec des dimensions qui fait que quelque chose de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on voit bien que même dans l'histoire du cinéma, on est passé de la star à la vedette, et quand on voit les youtubeurs, par exemple, ils sont terriblement accessibles. Et je crois que cet enjeu existentiel très narcissique, je passe à la télé, donc je suis, est devenu véritablement une manière d'exister.
Nathalie Nadeau-Albertini, vous, comment vous expliquez ce succès fulgurant des téléréalités, même si les concepts varient selon les cultures, selon les pays ?
Alors moi, ce sont des émissions qui mettent en scène des histoires d'amour, d'amitié et d'inimitié. Et c'est quelque chose en fait que tout le monde vit, si vous voulez, dans sa vie de tous les jours.
Oui, bien sûr.
Des histoires d'amour, d'amitié, d'inimitié. Tout le monde a été confronté à ça. Et donc c'est une façon de se retrouver en fait dans ce qu'on voit à l'écran. Ça c'est pour l'intrigue. Après, je pense que ce qui a fait aussi beaucoup le succès de la télé-réalité, paradoxalement, c'est sa critique. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du Loft. Le Loft, en 2001, c'était phénoménal. La critique était phénoménale. Je me souviens quand j'ai fait ma thèse, quand j'ai ramené toutes les coupures de presse et uniquement de la presse sérieuse, j'ai rempli entièrement mon bureau. Donc c'était énorme. Tout le monde se posait la question qu'est-ce que le Loft ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et ce faisant, en se posant continuellement la question, en fait, on a quelque part fait la communication du Loft. Et il me semble que ce qui assure aussi
donc c'est la polémique qui fait le c'est, oui, c'est donc la polémique qui fait le succès, finalement.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on en parle. Donc les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Donc ils vont voir. Et après, ils trouvent dans les émissions, des choses qui leur parlent, donc comme je vous disais, des histoires d'amour, d'amitié, d'inimitié, ou comme le disait
Michael Stora,
effectivement, y a aussi quelque chose, oui, de l'ordre du voyeurisme, de la pulsion d'emprise, bien évidemment, mais en même temps, c'est aussi le fait de se retrouver.
Oui, alors c'est amusant parce que je faisais partie à l'époque du collège iconique créé par l'INA, où nous étions des intellectuels réfléchissant à l'image. Et vous savez que Benex avait fait un documentaire sur le Loft.
Oui.
Et il y avait une totale ambivalence. La plupart des collègues méprisant, dont moi-même, hein, je méprisais profondément la télé-réalité parce que c'était la mort de la fiction, d'une certaine manière, pour évoquer l'amour, l'amitié. Mais en même temps...
Et d'une certaine créativité artistique, donc.
Oui, voilà, évidemment. Et en même temps, il y avait beaucoup de collègues qui disaient « Non, on ne peut pas critiquer critiquer car le peuple aime profondément le love. Donc il y avait une ambivalence aussi sur le mépris intellectuel et en même temps, donc de très haut, un peu, on va dire, méprisant et snob, et de l'autre, l'idée, mais non, le peuple aime ça, donc il s'agit quand même de ne pas le mépriser.
Je peux me permettre de
je vous en prie, Nathalie Nadeau.
D'accord. Je suis totalement d'accord avec vous parce que cette ambivalence entre cette espèce de mépris d'un côté et cette espèce d'engouement de l'autre fait que, justement, ça a participé de la mécanique d'emballement qui a contribué au succès. C'est-à-dire que, finalement, ces deux positions ont dialogué entre elles dans l'espace public et... Ça a fait, justement, ça a accru l'intérêt des gens pour ce type d'émission, du moins il me semble.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des téléréalités aujourd'hui qui sont sur la sellette de 7 milliards de voisins.
Non. Et sinon après, t'as dit quoi ta meuf?
Il n'y avait pas de shampoing.
La salope. Après, et Samy, toi t'as dit quoi ta meuf toi?
Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô?
Non! Lâche ça, non! Après, t'as fait quoi?
Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux.
Voilà, ça c'est une parodie à partir de la célèbre réplique de Nabila, t'es une fille, t'as pas de shampoing, non mais allô quoi, sous-entendu, ceci dit, voilà, nouvelle réplique est passée dans la langue française, mais on est où? Comment une fille peut-elle oublier son shampoing? Vous nous le disiez il y a quelques secondes, Michael Stora, critiquer les téléréalités, ça revient finalement à critiquer le peuple, puisque le peuple aime les téléréalités, il en témoigne les audiences énormes de ces émissions de téléréalité. Donc c'est tout de même assez compliqué. Nous sommes en ligne avec Marjolaine Boutet, spécialiste des médias anglophones. Bonjour Marjolaine Boutet.
Bonjour.
Vous êtes à l'université de Picardie, Jules Verne. Les chaînes anglo-saxonnes, est-ce qu'elles sont aujourd'hui, alors on l'a vu, on en a beaucoup reparlé au moment de l'élection du nouveau président américain Donald Trump, puisqu'il avait lancé cette fameuse série, cette fameuse télé-réalité, The Apprentice, qui consiste en finalement, c'est toujours une compétition, sauf que là c'est un chef d'entreprise qui, avec différentes épreuves, élimine les candidats, enfin vire les candidats pour un job un par un. Donc évidemment, c'est toujours aussi là, il y a toujours un concept assez violent, assez humiliant. Est-ce que ces chaînes anglo-saxonnes sont toujours le fer de lance des nouveaux concepts qui cherchent toujours les limites finalement?
Alors le fer de lance des nouveaux concepts, c'est pas vraiment les États-Unis, c'est davantage les Pays-Bas qui repoussent toujours les limites de la télé-réalité. C'est eux les inventeurs du loft. C'est eux qui ont inventé des formats dans lesquels des mères choisissent le couple adoptant de leur enfant à naître, qui mettent en scène des handicapés. Enfin, vraiment, il n'y a pas de limite aux Pays-Bas dans la télé-réalité, qui est ensuite adaptée en Angleterre, aux États-Unis et souvent en France. Ce que nous dit la télé-réalité américaine, et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Michael Stora sur la mise en scène de soi, le narcissisme qui est une sorte d'aboutissement de l'individualisme de nos sociétés qui a commencé il y a plusieurs siècles. Hein. Je suis historienne, donc j'ai cette vision du temps long. En ce qui concerne Donald Trump, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est véritablement un produit de cette télé-réalité, de la mise en scène de soi, puisque finalement dans The Apprentice, la véritable star, c'est lui. Et il se met en scène comme un homme d'affaires à succès. Et c'est finalement ce que Trump sait faire le mieux, c'est-à-dire se vendre lui-même comme un chef d'entreprise capable de prendre des décisions difficiles. Mais évidemment, le risque, c'est de prendre cette mise en scène de la réalité pour argent comptant, pour la réalité de son travail, puisqu'évidemment, tout ça est mis en scène, est monté, encore une fois, le valoriser lui et humilier ses pauvres candidats, alors d'abord inconnus, puis des espèces de célébrités sur le retour. Voilà, c'est vraiment la combinaison de narcissisme et d'humiliation qui a qui lui a donné un charisme dont on peut difficilement mesurer la portée vue de France.
Et qui présageait aussi de ce message anti-système, hein, c'est-à-dire que finalement celui qui peut gagner le job n'est pas forcément le plus savant, le plus diplômé, mais celui qui va se débrouiller sur des épreuves parfois un peu improbables.
Alors c'est oui. Alors le anti-système, en fait, c'est l'anti-élitisme. Mmh, en fait, la télé-réalité de façon générale met en scène cette histoire est très américaine finalement, que partie de rien, on peut arriver au sommet, à la célébrité, à devenir une star de la chanson, etc., etc. Mais qu'on n'a pas besoin de travailler. Il suffit d'être. Il suffit d'être soi-même, il suffit de laisser son talent naturel s'exprimer. Et ça, je pense que c'est effectivement tout à fait, ça plaît énormément au public actuel, parce que l'ascenseur social est bloqué, parce que on sait très bien que les universités offrent finalement peu de chances de réussite aux gens qui sont issus du bas de l'échelle sociale. Et donc finalement, ce discours-là, ce rêve de ce miroir aux alouettes de célébrité immédiate et de qu'on confond avec le succès, avec le succès économique, matériel et social, explique aussi,
et qui paradoxalement ne fait pas l'apologie de l'effort et du travail, bien que ce soit largement mis en scène par un mode de pensée plutôt libéral. Il y a plusieurs concepts de télé-réalité qui stigmatisent les familles pauvres en Grande-Bretagne. Alors la famille, ça peut être des familles avec trop d'enfants qui profitent des allocations familiales, les chômeurs qui ne cherchent pas de travail. Je pense à Rue des allocations familiales, qui a d'ailleurs été tentée en France, Benefit Street, et qui filme au quotidien la vie des habitants d'une rue à Birmingham, dans un quartier modeste, où les candidats sont livrés aux insultes des téléspectateurs sur Internet. Tu ferais mieux d'aller bosser plutôt que de piquer nos allocations familiales, etc. etc. Est-ce que là, on touche encore un autre type de limite ?
Oui, là encore, c'est la télé britannique, en revanche, s'est toujours intéressée, là encore, depuis sa naissance, aux classes populaires, à la différence de la télévision française, qui se focalise davantage sur les classes moyennes. Donc il y a vraiment cet intérêt pour les classes populaires, qu'on retrouve au cinéma, hein, le cinéma de Ken Loach, etc., mais on le retrouve aussi à la télévision, et dans sa version Bad Buzz, qui est effectivement Benefit Street, où on va, dans un contexte de triomphe de l'idéologie néolibérale, stigmatiser les gens qui sont aidés par l'État comme des profiteurs. Mais là encore, c'est un très très vieux cliché qui est aussi vieux que l'industrialisation, parce que déjà au XIXe siècle, les bourgeois se promenaient dans les cités ouvrières et disaient « Oh là là, mais regardez comment on vit ces gens ».
Mais Nathalie Nadeau-Albertini, ça, ce sont des concepts qui n'ont pas vraiment marché en France?
Non, effectivement.
Alors pourquoi il y a une limite à la tolérance en France?
Parce que il me semble, après il faut voir sur le long terme, mais il me semble que des concepts comme ça qui vont trop loin, si vous voulez.
Trop néolibéral finalement, trop violent.
Trop violent au niveau néolibéral, aussi au niveau... À chaque fois que c'est violent contre la définition de la personne, enfin explicitement violent contre la définition de la personne, contre sa dignité, en fait, on s'aperçoit que l'audience ne fonctionne pas. Je me souviens, par exemple...
En France, du moins.
Pardon ?
En France, du moins.
En France, oui, en France, du moins. Je ne prononce en aucun cas pour les pays anglo-saxons, où, comme le disait ma collègue, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Là, on est vraiment sur la France. Je me souviens donc en France, en 2004... de Fear Factor. Donc Fear Factor, l'idée, c'était de confronter un individu à ses phobies. Par exemple, vous avez peur du noir, vous avez peur des serpents, vous êtes claustrophobe. Et ben, on vous demande de nager sous l'eau, dans le noir, dans un endroit réduit où il y a des serpents. Donc on voyait que la personne souffrait beaucoup. Et c'était très, très pénible, en fait, à regarder cette
Alors, souffrance. Vous restez avec nous, justement. On essaye de voir jusqu'où peut aller la télé-réalité, y compris impolitiquement correct. Merci beaucoup à notre invitée universitaire, Marjolaine Boutet, spécialiste des médias anglophones. Vous restez avec nous, Nathalie Nadeau-Albertini et Michael Stora. On se retrouve juste après le flash, c'est-à-dire dans un peu plus de 3 minutes. Si vous regardez des émissions de télé-réalité ou que vous soyez dans le monde, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. A tout de suite.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous parlons de la télé-réalité aujourd'hui. Que dit-elle sur nos sociétés? Nous en discutons avec Michael Stora, psychologue psychanalyste spécialisé de la télévision. On est également en ligne avec Nathalie Nadeau-Albertini, qui est sociologue des médias au Centre d'études des mouvements sociaux et qui a publié 12 ans de télé-réalité au-delà des critiques morales, puisque c'est vrai, la télé-réalité maintenant a 15 ans en France. Hein, l'arrivée et le succès immédiat avec le Loft en 2001, et puis un petit peu plus dans d'autres pays, comme nous l'expliquait également Marjolaine Boutet tout à l'heure au téléphone, hein, avec des concepts qui sont arrivés, notamment des pays anglo-saxons, mais aussi des Pays-Bas qui présentent les concepts les plus testants, on va dire, au maximum, les limites. Encore qu'il y a une télé-réalité russe qui dure depuis 2004, je crois qu'on en parle avec vous, Nathalie Nadeau-Albertini. Mais bien sûr, on vous laisse la parole, les voisins, les voisines, si vous regardez la télévision ou que vous soyez dans le monde. Claude Karine est à Yaoundé, elle est au Cameroun. Vous avez la parole, Claude Karine.
Bonjour, 7 milliards de voisins.
Vous avez dit au Standard, Claude Karine, que pour vous, la télé-réalité n'est justement pas le reflet de notre réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, pas du tout. Je voulais dire par là que généralement, ce sont des filles filiformes, canons, qui sont représentées, aussi des mecs. Hein.
Oui.
Qui sont représentés dans ces émissions. Mais en réalité, dans notre société, notamment en Afrique, les femmes et les hommes sont plutôt d'aspect généreux.
Oui.
On peut penser par là que c'est pour véhiculer une certaine image, notamment faire la publicité de la chirurgie esthétique qui est de moins en moins, qui est quasiment rare dans notre pays.
Ouais, donc vous
dans nos pays.
Vous soupçonnez que le recrutement des candidats soit fait pour plébisciter l'usage de la chirurgie esthétique?
Aussi. Au vu de l'image des personnes.
On attend Claude Issiard, qui est évidemment notre collègue et ami à RFI, mais qui est aussi présentateur de The Voice Afrique francophone, qui va arriver d'une minute à l'autre, j'espère, dans notre studio. On va lui demander comment sont recrutés les candidats de The Voice Afrique, justement, et si on tient compte des différences culturelles, des différences de canons esthétiques, et éventuellement. Merci pour votre intervention. Ça pose tout de même une question sur Michael Stora, sur le recrutement des candidats aujourd'hui dans ces télé-réalités.
Oui, j'aime vraiment cette remarque parce qu'elle est très intéressante sur le fait que beaucoup de télé-réalités, je ne parle pas de The Voice, là, je parle de Loft par exemple, qui est un archétype, jouer sur des archétypes, hein, puisqu'on sait que dans tous les pays d'Europe, on retrouvait à peu près les mêmes archétypes que ce qu'on a eu en France, mais au-delà, on est vraiment dans cette ère de 0-3 ans. C'est-à-dire quelque chose de très régressif. On aime l'autre, non pas par rapport à ce qu'il va produire, mais pour ce qu'il est tout simplement physiquement, entre autres. C'est-à-dire qu'on est comme un bébé. Pour moi, le Loft, ce sont des bébés les uns à côté des autres, parce qu'ils veulent être aimés tout simplement, non pas parce qu'ils vont produire. Ce qui arrive vers les 3-4 ans, vous savez, l'enfant nous présente un dessin. Et donc, on va commencer à se rendre compte qu'on l'aime non pas simplement pour ce qu'il est, parce qu'il est beau, quoi qu'il arrive, mais pour ce qu'il donne, nous donne à voir.
Dans ces émissions, les candidats se parlent, interagissent les uns avec les autres.
Oui, vous avez vu le niveau de discussion.
Oui, mais enfin, tout de même, il y a des relations humaines.
Il n'y a pas de production. Il n'y a aucune production. Par contre, The Voice ou d'autres, on pourra en parler, là, ils produisent quelque chose. Le physique n'est pas suffisant pour être bon. Vous avez pu voir, d'ailleurs...
Des compétitions de talent.
Ce sont des compétitions à la limite...
Avec les compétitions de cuisine, notamment.
Tout à fait, de talent, de cuisine ou autre. C'est pour ça que ces émissions-là nous renvoient à des positions incroyablement infantiles. Voilà, et c'est là où ça devient... Et d'ailleurs, on avait à l'époque beaucoup réfléchi sur le fait qu'au fond, ils ont des caméras partout qui les regardent comme un peu l'idée d'un regard parental qui vient viendraient nous rappeler à quel point ils sont beaux et ils correspondent aussi, et là je rejoins cette tyrannie d'une image esthétique, et Nabila entre autres par exemple, comme exemple, est totalement refaite, tout le monde le sait, et elle est un archétype justement de cette dérive, de cette tyrannie d'une image à laquelle il faut correspondre, etc.
Nathalie Nadeau-Albertini, sur cette tyrannie de l'image et sur ce côté infantilisant, régressif de ces émissions de télé-réalité, vous êtes d'accord ? Nathalie Nadeau-Albertini.
Au sens où, oui, bien sûr. Au sens où, on est dans l'affect, on est dans le regardez-moi. Et comme le disait Marjolaine Boutet tout à l'heure, on est dans, globalement, si vous voulez, on est dans des concepts où, en fait, il suffit d'être soi-même. Donc on est effectivement dans de la revendication d'ego, de l'exposition d'ego. Donc effectivement, oui, bien sûr, on est dans quelque chose d'assez infantilisant pour la télé-réalité qu'on étiquette explicitement télé-réalité, pas celle qui est les jeux d'aventure ou les concours de talent, où là, effectivement, il y a une production, il y a quelque chose de différent.
Oui, c'est-à-dire qu'une série comme Koh-Lanta n'est pas à mettre dans le même groupe, par exemple, qu'une série comme Le Loft ou d'autres séries. Vous voulez dire qu'à partir du moment où il y a un défi physique qui fait appel à des compétences...
À d'autres capacités. On a affaire à d'autres capacités que uniquement la capacité de l'affect. Dans Koh-Lanta, vous avez, on a la dimension d'effort, on teste la détermination, on teste même des capacités stratégiques. Alors, on peut après discuter du fait de faire des stratégies pour gagner le jeu, mais on a d'autres choses qui sont mises en scène que simplement la relation affective ou l'exposition de soi qui dit « regardez-moi, aimez-moi ».
Alors, il y a une télé-réalité qui dure depuis, en Russie, depuis 2004, qui ne s'est jamais interrompue. Vous pouvez nous parler de ce concept assez incroyable ?
Tout à fait. C'est un concept qui s'appelle « Dôme 2 ». Donc effectivement, il dure depuis 2004. Alors c'est à l'origine, c'est une émission de dating, c'est-à-dire qu'il faut c'est une émission pour rencontrer un partenaire ou une partenaire. Et donc, si vous voulez, les couples se rencontrent dans le cadre de la construction d'une maison qui sera le prix en fait à gagner au final. Mais comme ça ne s'est jamais interrompu,
Donc personne n'a gagné la maison, donc, pour le moment.
Personne ne l'a gagné. Ce n'est absolument plus l'enjeu. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les gens donc ont développé des relations amoureuses dans l'émission. Certains se sont mariés, certains ont eu des enfants. Donc ils ont été les couples mariés avec les enfants sont incorporés dans l'émission. Ils vivent dans des appartements séparés à Moscou, alors que les candidats qui cherchent à se rencontrer vivent dans ce qu'on appelle la clairière. C'est-à-dire que c'est un autre studio de tournage dans la banlieue de Moscou, où c'est comme une sorte de terrain d'expérimentation de la relation amoureuse. Donc, si vous voulez, même le concept d'enfermement, il n'existe plus parce qu'ils peuvent également partir en tournée, parce que certains chantent. Ils peuvent prendre des vacances, donc qui sont bien évidemment organisées par la production. Ils peuvent voir leur famille.
Et pourquoi ça cartonne en Russie ? Pourquoi ça n'a pas été exporté, d'ailleurs ?
Pourquoi ça n'a pas été exporté ? Probablement parce que c'est peut-être trop transgressif pour nous. Si vous prenez... je parle de la France, hein, je ne suis pas spécialiste des autres pays, donc je vous parle uniquement de la France. En France, on tend vers quelque chose comme ça depuis à peu près 2011, c'est-à-dire l'arrivée des anges et la professionnalisation des candidats. C'est-à-dire que finalement, avec ce côté transmédia et transprogramme, on finit par avoir une intrigue qui ne s'arrête jamais de programme en programme. C'est-à-dire qu'un candidat, par exemple, va rentrer dans Secret Story, il est en couple. Pendant le Secret Story, on s'aperçoit que finalement le couple ne tient pas si bien que ça. Quand ils sortent, ils vont communiquer sur les réseaux sur leur couple. Après, ils font les anges. Dans les anges, On a bien évidemment la rupture. Quand ils sortent des anges, ils communiquent sur leur rupture.
Oui.
Et après, bah, l'un des deux va aller faire la villa des cœurs brisés pour tourner la page.
Exactement. C'est ce qui s'appelle faire une carrière dans la télé-réalité, hein, justement.
Oui.
C'est ça,
il faut qu'on dise un mot des salaires. Enfin, ce ne sont pas des salaires, ce sont des émoluments. Hein, mais les candidats qui se professionnalisent dans ces émissions de télé-réalité, alors un vainqueur peut gagner 150 000 euros, voire plus. Mais à cela, il faut ajouter, pour tous ceux qui n'ont pas gagné, mais qui sont finalistes, évidemment, il y a des émoluments. Et puis, il y a tous les passages en boîte de nuit, en passant par des agences de bookers qui les rémunèrent pour la moindre présence dans un lieu public, Michael Stora.
Oui, évidemment. En même temps, c'est évident qu'on voit que le relais, et c'est pour ça que la question du transmédia est très intéressante, de plus en plus, le relais se fait sur la toile. J'ai presque envie de vous dire que Facebook, pour moi, c'est de l'internet réalité. On est dans un espace où, au fond, on va continuer à exercer une aura. Et d'ailleurs, on a pu voir qu'il y a des millions et des millions de personnes qui vont, par exemple, regarder sur YouTube des familles qui vont mettre en scène leur quotidien. On est tous, d'une certaine manière, devenus dans ce désir d'exister à tout prix.
Mais la participation, enfin, être participant à une émission de télé-réalité, c'est devenu un nouveau métier ? Vous iriez jusqu'à dire cela ?
Oui, mais évidemment qu'on s'en rend bien compte que certains vont continuer, mais jusqu'à quand ? Au bout d'un moment, on ne peut pas, et c'est là où se situe peut-être idéalement l'exigence que peut-être on peut repérer déjà même sur Internet, c'est-à-dire tout le monde ne va pas durer, et on a pu voir aussi, de manière terrible, des candidats qui se sont suicidés. Ce sont quand même des gens avec une très grande fragilité, très souvent, et finalement on rentre dans quelque chose d'un jeu un peu diabolique. Et j'aimerais, parce que j'ai pu dernièrement réagir sur le fait que vous avez maintenant des véritables laboratoires de couples qui au quotidien vivent avec des caméras partout dans leur appartement, et c'est un des lieux où il y a le plus grand succès, et donc on est passé des jeux du cirque à maintenant le laboratoire où on voit évoluer quasiment des humains en forme de rats.
Et puis il y a aussi La prison dans la prison, une série qui s'appelle 60 Days In, en voie de faux condamnés, ça c'est un concept américain, dans une vraie prison américaine pendant 2 mois au milieu de 500 détenus condamnés pour violence ou trafic de drogue. Et les candidats qui sont innocents, les gardiens de la prison l'ignorent. 12 épisodes, très bonnes vacances en perspective.
Chips et télécommande, je me demande, Nikos, en vrai, il est comment ? Cet inconnu devient quelqu'un le temps d'une fausse note, et au prix de quelques larmes versées aura gagné leur vote. La dépression est de bon ton, maman est fière de son fiston, qui a chanté l'envie d'aimer sans écart d'un mouton. Le guitariste donne tout, mais sa gratte n'est pas branchée, et je me rends compte que dans ce morceau, y'a que du clavier. Un duo commence, elle oublie texte et mélodie, personne n'y voit que du feu et tout le public applaudit. Comme toujours, l'épilogue idéal. Moi aussi, je veux vivre dans un catalogue Ikea. Je suis scotché, car au fond, c'est qu'on me donne de l'espoir. Je me dis que je sais rien faire, mais que ça empêche pas d'être une star. À quand la gloire, l'Oscar, pour mon rôle d'anonyme. Voici mon pseudonyme.
I'm Mr. No.
Monsieur tout le monde veut devenir quelqu'un. Et quand quelqu'un y parvient, on dit tous quel con. Lui fait la coupe de elle, elle fait la coupe de lui. Elle a des ennuis depuis qu'elle est un produit. Pourtant, lui comme elle sont des personnes quelconques. Et quelques secondes d'antenne ont tout changé, quelle honte. Le talent est moins important que la notoriété. D'abord les interviews et après on t'écoute chanter. On te regarde danser, on t'observe monter. En haut de l'affiche et le lendemain, on te regarde tomber. Canap, je rêve à un hommage posthume où des stars défileraient pour moi dans un noir costume. On vendrait mes qualités de zappeur hors norme avec un maître de cérémonie en chapeau haute forme. Je me fais un film seulement, y'a rien sur la pellicule. Je suis monsieur tout le monde, on casse gratter les testicules. Ouais, monsieur tout le monde.
I'm Mr. Nobody.
Monsieur tout le monde.
Somebody. I'm Mr. Nobody.
Je suis
body.
Monsieur tout le monde.
Somebody. I'm Mr. Nobody.
Je suis
body.
Monsieur tout le monde.
Somebody. I'm Mr. Nobody.
Je suis
body.
Monsieur tout le monde.
Somebody.
C'est Monsieur tout le monde chez Hocus Pocus. C'est un peu justement le cas des participants dans les émissions de télé-réalité qui deviennent des stars en quelques épisodes. Alors ceci dit, Nathalie Nadeau-Albertini, il faut bien spécifier que malgré l'immense succès de ces émissions de télé-réalité, il y a aussi dans tous les pays pratiquement, ces émissions font l'objet de plaintes auprès des autorités de surveillance audiovisuelle, que ce soit en Grande-Bretagne. Je pense notamment à la série Naked Attraction, qui est une série où en fait le slogan, c'est « commencer nu pour finir habillé hein ». Donc, on commence par se rencontrer. Je sais pas, vous voyez de quoi je veux parler Oui. Bon, c'est pas évident de s'y retrouver dans la centaine d'émissions de télé-réalité. En Afrique du Sud aussi, il y avait une émission qui s'appelle « Un mariage parfait » qui a été accusé de faire la promotion des violences sexuelles parce qu'il y avait un candidat taximan qui expliquait que, qui d'ailleurs s'était marié avec une fille extrêmement jeune qu'il avait rencontrée dans son taxi et qu'il expliquait qui ciblait les lycéennes comme passagères pour obtenir des relations sexuelles. Donc ça avait fait scandale. Et donc les téléspectateurs se plaignent aussi.
Oui, les téléspectateurs se plaignent.
Tout en regardant, bien sûr.
Oui, j'ai envie de vous dire, oui, heureusement. Heureusement, mais si vous voulez, j'ai envie de vous dire aussi que malheureusement, ça participe. Vous savez, actuellement, je vous parlais tout à l'heure de la télé-réalité qui s'assume comme télé-réalité. En fait, c'est une télé-réalité qui, quelque part, assume son parfum de scandale. Donc, en fait, toutes ces plaintes, finalement, elles font parler des émissions. Oui. Alors, bien évidemment, on est dans le mauvais buzz, mais on est quand même dans le buzz. C'est-à-dire qu'on est dans la caisse de résonance. Oui. Et finalement, ça contribue quelque part à la promotion de la télé-réalité.
Et alors, vous spécialiste des médias qui avez publié 12 ans de télé-réalité, quelle est votre opinion personnelle profonde sur la télé-réalité? Parce que on dit que vous n'êtes pas si critique que cela.
Alors, d'accord, oui. Oui. Mais effectivement, je vous remercie de me poser explicitement la question, parce que vraiment, ça va me permettre d'y répondre. En fait, quand dans mon livre, au-delà des critiques morales, c'est en fait une posture, c'est-à-dire que je décris comment la télé-réalité s'est constituée. Je ne fais pas la promotion de la télé-réalité, bien au contraire. En fait, si vous poussez mon raisonnement, ce qu'il dit, la question qu'il pose, c'est la question de la critique, de la place de la critique actuellement dans nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que la télé-réalité digère très bien la critique, arrive à en faire un élément de son ADN et fait en sorte que finalement, toutes les polémiques qu'on va pouvoir lui opposer, toutes les critiques violentes qu'on va pouvoir lui opposer, finalement, elles vont sembler décalées, elles vont sembler patinées, donc assez inefficaces parce que ça a déjà été récupéré par le système, soit dans le concept, soit dans...
Mais finalement, en tant qu'universitaire, vous ne dites pas que c'est une insulte à l'intelligence, la télé-réalité.
Ça dépend sur quel niveau on se place, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on la regarde, oui, en plus c'est reçu par bon nombre de téléspectateurs comme une insulte à l'intelligence. Mais même le fait de dire c'est une insulte à l'intelligence, c'est prévu par le programme. C'est-à-dire que finalement, ce sont des programmes qui permettent toujours de se sentir...
C'est prévu et c'est même, et c'est même, et c'est même bon pour le programme et pour la notoriété du programme. C'est ce que vous voulez dire.
C'est ça. C'est-à-dire que finalement, ça... si vous voulez, on récupère vraiment la critique. Ouais. C'est ça que je dis.
Ouais. Michael Stora veut répondre.
Moi, Michael Stora. C'est ça que je dis.
Non, mais je trouve ça intéressant. Et dernièrement, j'ai travaillé sur un documentaire sur le concept de pétasse. Vous voyez, alors je ne veux pas dire, mais sur la question de la vulgarité. Et en fin de compte...
Vous insinuez qu'il y a beaucoup de pétasse dans les émissions de télé-réalité?
Alors bon, ça en fait partie. Oui, ça, évidemment.
Ça fait partie des ingrédients.
Ça fait partie des ingrédients.
Du casting, du recrutement, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'était le côté... moi, j'entends parler de gens de haut niveau, on va dire, intellectuels, qui vont regarder ces émissions-là avec une sorte de sentiment de culpabilité. Et à l'image, par exemple...
Mais comme les anthropologues?
Non, pas du tout. Oui, je me sens coupable, mais c'est bon. Donc, il y a une sorte de rapport un peu transgressif, d'autant plus parce que c'est vulgaire. C'est un peu comme une... Je parlais d'une collègue qui me disait, t'as vu, j'ai mis des chaussures de pétasse. Donc, il y avait le côté, je suis quand même bac plus 5, une grande bourgeoise, bobo, mais je vais mettre des chaussures. Donc, on va retrouver cette idée que quand même, plus en effet, on va dire que c'est immoral ou amoral, plus on va pouvoir regarder ça comme quelque chose avec une forme de sentiment de culpabilité presque jouissif. On est quand même dans un pays très chrétien aussi. D'où l'idée de au-delà de la critique morale, peut-être. Hein.
Nathalie Nadeau-Albertini, est-ce qu'il peut y avoir de bons programmes de télévision en réalité ?
Bah, pour moi, par exemple, Danse avec les stars ou The Voice ou les émissions culinaires, ce sont des programmes plus, comment dire, qui sont plus soft, donc que les gens vont, vont considérer comme des bons programmes de télé-réalité parce que moins sulfureux, si vous voulez. Mmh.
Moins sulfureux, néanmoins, les télé-réalités de cuisine, par exemple, il y a vraiment un esprit de compétition implacable. Hein.
Oui, ça, oui, mais
ça fait
en
pas
même
la promotion
temps,
de la solidarité
les
en général.
Gens disent, mais ils font quelque chose. Mmh. Ils ont des compétences et bien sûr ils sont en compétition les uns avec les autres. Mais c'est pas une identité contre une identité. C'est pas voter pour moi parce que je suis comme ça ou voter pour moi parce que je suis comme ça. C'est par rapport à ce que les gens font. Et c'est la différence là que les téléspectateurs font.
Michael Stora, au début de l'émission, vous nous disiez, on m'a proposé d'ailleurs pour des émoluments importants, ouais, des chaînes, enfin des sociétés de production audiovisuelle vous ont proposé de participer comme caution scientifique en tant que psychologue psychanalyste,
ouais,
à des émissions à des équipes de télé-réalité.
Ah, c'était même plus loin puisque la société Endemol a souhaité que je fasse partie de leur comité d'éthique, j'ai refusé. Et au-delà, sans nommer la chaîne, on m'a demandé de travailler sur une histoire en tant que psychologue pour intervenir chez des personnes dans une histoire où il fallait que j'aide une femme à arrêter de jouer aux jeux vidéo parce qu'elle jouait un peu trop. Et après, quand je demande un peu plus à la journaliste, mais qui est cette femme ? Elle était tapée par ses filles, maltraitée par son mari. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'était une histoire terrible avec une dépression de cette femme. Ou quand même, là, au-delà de la morale, c'est une problématique éthique qui fait que pour moi, c'est véritablement pactisé avec le diable dans cette mise en scène où finalement, je serai là pour colmater une situation en à peine une émission, alors que ce type de situation, et ça c'est mon travail de psychanalyste, et ben justement on travaille sur la durée. Et c'est là où se situe peut-être...
Vous avez refusé pour des raisons morales de participer à une émission qui se voulait morale et qui était d'aider cette pauvre femme.
Alors justement, j'ai dit pas morale, j'ai dit éthique. Ouais. Et je fais bien la différence.
Claude Hissière vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Claudie, on est ravis de vous accueillir.
Manuel.
Voisin, ami et présentateur de The Voice Afrique francophone. Mm-hmm. Alors vous avez de la chance parce que depuis le début, c'est vrai qu'on fait un sort difficile aux émissions de télé-réalité, et les seuls qui sont épargnés par les critiques, hein, selon effectivement nos invités, Nathalie Nadeau-Albertini, qui est spécialiste des émissions de télé-réalité, entre autres, disait bah, bien sûr, les émissions sur les compétitions musicales sortent du lot et ne sont pas à confondre avec les autres émissions de télé-réalité. Néanmoins, une auditrice nous disait, oui, mais toutes ces émissions, y compris Voice Afrique francophone, les candidats ne ressemblent pas à la réalité, comment sont-ils sélectionnés ?
C'est faux. C'est faux parce que l'importance de la musique au sein des peuples d'Afrique, ce n'est pas que du divertissement. C'est vraiment la musique nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Elle rythme chaque instant de nos vies. Donc les artistes existent, qu'ils soient professionnels ou pas. Et souvent, ils ne sont évidemment pas professionnels. Et donc, la musique a une autre signification, une autre importance. Donc, c'est la réalité. C'est pour ça qu'il y a autant de talents. Lorsque vous regardez,
alors,
par exemple...
Ils sont sélectionnés comment alors qu'est-ce que vous avez
partout.
Le droit de dire en tant que présentateur?
Non, je pense que ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que le The Voice Afrique francophone est finalement très différent lorsqu'on regarde le programme des autres The Voice. On sent qu'il y a plus de vérité, même si c'est quelque chose, c'est une vraie machine The Voice, c'est impressionnant. Moi, pour donc être dans cette aventure-là, on voit de la façon dont les Hollandais vous disent que c'est comme ça, tout est charté, mais à mort.
Comment ça a été adapté justement à la culture du continent africain? Il y a une ambiance plus sympathique, plus humaine?
Non, c'est-à-dire que nous, on est vraiment sur des rails, sauf que nous sommes ce que nous sommes, et donc ça déborde. Et donc nous sommes nous-mêmes.
Jusqu'où vous avez le droit de déborder justement?
Non, bah, tant qu'on respecte à la fois les différentes étapes entre les auditions à l'aveugle, donc ça doit se passer comme ça, les fauteuils
ça,
se retournent, tout ça sont les règles du jeu,
d'accord.
Et tout ça on respecte.
Après...
Le reste, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Et c'est justement ça, je trouve que The Voice permet, ou ce type d'émission-là, certaines en tout cas, certaines émissions, eh bien, permettent de révéler ce que sont les peuples ou les gens ou les régions. Et je trouve que c'est ce que l'on voit dans The Voice Afrique francophone, et tous, hein, même ceux qui travaillent sur le programme français, disent, c'est impressionnant comme la définition africaine est totalement différente. On sent qu'il y a de la vérité, que les gens se lâchent. Mmh. C'est vraiment ça. Les différents coachs, je les connais très bien, sont vraiment mes amis. Et ils sont dans la vie ce que vous voyez à la télévision. Et beaucoup de gens les découvrent justement autrement. Et les artistes sont pareils, ils ont la même vérité. Vous voyez la façon dont ils se lâchent, c'est à l'africaine. Alors on a coupé beaucoup de scènes, là je peux le dire, où par exemple
les
accompagnants disent, alors c'est Dieu à qui en veut, Dieu ceci, merci, c'est Dieu qui lui a permis d'être là. On a beaucoup coupé sur ça. J'ai même envie de dire quasiment tout coupé, parce que c'était devenu trop, quoi. C'était devenu une église, The Voice. Mais voilà, c'est-à-dire que les gens sont naturels. Il se lâche vraiment.
Donc, que le meilleur gagne, hein, bien sûr. Là, il y aura combien d'épisodes en tout ?
Alors, ce sont 17 épisodes. Nous allons, à partir de janvier, être pour les lives, les grands shows en direct, comme on dit. Donc, il y aura 5 lives. Et là, les téléspectateurs pourront voter pour, parmi les 24 talents.
C'est diffusé dans combien de pays d'Afrique francophone
C'est diffusé carrément partout, puisque Vox Africa étant une chaîne internationale. Donc, moi, j'ai des appels de Finlande où on me dit « Ah, je regarde The Voice Afrique francophone ». C'est une belle compétition, c'est surtout une belle aventure humaine.
Il y aura une version anglophone à terme ou pas ?
Alors, il y a une version déjà pour l'Afrique du Sud, une version pour le Nigeria, une version qui est en train de se tourner pour les pays lusophones, pour l'Angola en particulier, et puis il y aura le Mozambique également, enfin bon, voilà.
Voilà. Eh bien, merci à vous en tout cas, Dissiard, d'être venu avant la fin de l'émission nous parler de la présentation de Voice Afrique francophone. Merci à vous, Michael Stora, psychologue, psychanalyste, spécialiste de la télévision. Et merci à vous, Nathalie Nadeau-Albertini, sociologue des médias. Vous avez publié 12 ans de télé-réalité, enfin plus maintenant d'ailleurs, au-delà des critiques morales aux éditions de Lina. Merci à vous les voisins et les voisines pour vos témoignages et à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la situation des enfants dans le monde, bonheur et inégalité. Merci à vous tous de votre fidélité. À demain.